6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
6h40, les enjeux internationaux. Lundi, l'offensive israélienne a été lancée sur la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. D'abord avec des frappes aériennes, puis hier avec le déploiement de chars au sol. L'armée israélienne a également pris le contrôle de ce point frontière reliant l'enclave à l'Égypte, par lequel transitait jusqu'à présent le principal de l'aide humanitaire. L'opération militaire est vivement réprouvée par la communauté internationale, que ce soit par l'ONU, par les dirigeants européens, par les États-Unis et même par la Chine. Alors que des pourparlers pour un cessez-le-feu étaient encore en cours avec le Hamas, quelle est donc la stratégie de Benjamin Netanyahou dans cette opération? Pour en parler, je reçois ce matin Charles Anderlin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste ancien, correspondant de France 2 à Jérusalem. Vous êtes l'auteur d'Israël, l'agonie d'une démocratie. Ça a apparu aux éditions du Seuil en septembre 2023. Et pour commencer, pourquoi cette opération maintenant, alors qu'elle était prévue depuis des semaines maintenant?
Eh bien, écoutez, c'est une décision de Benjamin Netanyahou, mais aussi de l'état-major. Il s'agit officiellement de faire pression sur le Hamas. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que si les otages ne commencent pas à être libérés, si un accord n'est pas rapidement conclu, eh bien l'armée israélienne va poursuivre son offensive. Mais en fait, il s'agit d'une opération très ponctuelle. Elle se déroule à 3,5 km seulement de la frontière, dans un quartier très limité de Rafah. Et surtout, le contrôle du point de passage côté palestinien à la frontière égyptienne entre Gaza et l'Égypte, eh bien cela change effectivement la donne. Jusqu'à présent, en effet, c'était le seul passage par lequel des Palestiniens pouvaient se rendre en Égypte. Maintenant, M. Netanyahou, quand même, a accepté un grand principe. Le point de passage 1 ne sera pas détruit. L'armée israélienne doit prendre de grandes précautions pour éviter toute destruction à ce point-là. Et puis, lors de son retrait, ce ne seront pas des Palestiniens et pas le Hamas qui prendront le contrôle, mais bien une société américaine.
Opération ponctuelle, quartier limité, dites-vous, est-ce que vous diriez que d'une façon plus générale, c'est toute cette opération qui est plus limitée qu'on ne l'imaginait?
A priori, oui, parce que Israël, en l'occurrence l'état-major et M. Netanyahou, sont sous l'intense pression américaine. Les États-Unis ont suspendu pour la première fois des livraisons de munitions à Tsahal, à l'armée israélienne. Il s'agit de milliers de bombes, de près d'une tonne, de près de 220 kilos, et puis également des kits de guidage de précision de ces bombes. C'est très important pour la suite des opérations, notamment pour une éventuelle opération israélienne de grande envergure contre le Hezbollah à la frontière libanaise. Donc la pression est très importante. C'est la première fois, si je me souviens bien, depuis les années 70 que les Américains suspendent des livraisons d'armes, des livraisons de munitions israéliennes pour faire une pression, pour imposer une pression politique sur un gouvernement israélien. À l'époque, le Premier ministre était un certain Yitzhak Rabin, et le problème était que les Américains voulaient obliger Israël à conclure un accord de désengagement des forces avec la Syrie sur le Golan.
Ce qui inquiète naturellement Charles Anderlin, c'est la dimension humanitaire de cette opération. Lundi, les populations de certains quartiers de Rafah ont été sommées d'évacuer la zone. Elles ont été averties par le biais de tracts, notamment. Que sait-on là aussi de cette opération d'évacuation?
A priori, d'après les images qu'on a vues, elle se déroule sans trop de problèmes. Tout un secteur près de la plage à l'ouest de Khan Younes, sur un secteur qui s'appelle le Moissi, un camp de toile a été préparé, avec, paraît-il, également de l'aide humanitaire, un hôpital de campagne. 100 000 Palestiniens de Rafah se seraient dirigés dans ce secteur. Vous savez, il y a normalement 200 000 Palestiniens habitent Rafah et sa ville et le camp de réfugiés. Là, ils sont 1 200 000. Donc, il s'agit uniquement de 100 000 Palestiniens qui se sont dirigés vers ce secteur.
Dans les discours, ces jours présents du Premier ministre israélien, quels sont les objectifs affichés de cette opération ?
Écoutez, faire pression sur le Hamas, mais surtout montrer aux Américains que le cas échéant, M. Netanyahou décidera tout seul des opérations à suivre. Vous savez, il refuse absolument la proposition d'un grand accord régional que lui soumet l'administration Biden. Il s'agit de lancer des négociations vers un État palestinien, ce que refuse absolument Benjamin Netanyahou, et de lancer une grande alliance régionale avec l'Arabie Saoudite, normaliser les relations avec le royaume saoudien. Et cela, il n'en veut absolument pas parce que fondamentalement, M. Netanyahou et ses alliés au gouvernement, qu'il s'agisse des messianiques, du parti sioniste religieux ou de la puissance juive, sont totalement opposés à l'idée d'un État palestinien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au lieu d'accepter le déploiement à Rafah de douaniers, d'une force qui viendrait de Ramallah, de l'autorité palestinienne, M. Netanyahou préfère plutôt une société de gardiennage américaine.
Pourtant, on le sait, hein, la pression, Charles Anderlin, exercée par la société civile, par l'opinion publique israélienne, par les familles d'otages également, s'accroît sur le gouvernement. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Et au fond, comment le Premier ministre israélien voudrait tenter de résoudre ce dilemme auquel il est confronté aujourd'hui?
Écoutez, un chiffre est important, 64. La coalition parlementaire de Benjamin Netanyahou est de 64 députés sur 120. Elle est particulièrement solide. Et plus, les sondages indiquent qu'en cas d'élection maintenant, eh bien, elle retournerait dans l'opposition. Donc, il n'y a aucun intérêt pour M. Netanyahou et ses partenaires de la coalition à se lancer dans des élections. Donc, il fait face aux manifestations de plus en plus importantes des familles d'otages et de tout leur soutien, mais également des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont repris les grandes manifestations pro-démocratie, exigeant la chute de ce gouvernement et la démission de Benjamin Netanyahou. Ce dernier samedi soir, c'était de plus en plus important, et il faut dire que la police israélienne est de plus en plus violente contre ces manifestations, et pas seulement. Par contre, un détail, vous savez, des militants d'extrême droite s'attaquent aux convois d'aide humanitaire qui viennent de Jordanie et se dirigent vers Gaza, les arrêtent sur une route israélienne, détruisent des sacs de farine, et là, la police israélienne n'intervient pas, tout simplement, elle dépend de Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui est un raciste déclaré et totalement opposé à toute aide aux Palestiniens de Gaza.
Retour à Gaza, justement, Charles Anderlin, avec vous. L'armée israélienne a tracé un corridor séparant le nord du sud de Gaza, un corridor appelé Netzarim. Qu'est-ce que ce corridor laisse percevoir des projets de l'armée israélienne pour le territoire de Gaza tout entier ?
Écoutez, on n'a pas tous les détails, en tout cas, tout cela sera certainement à décider dans le cadre de l'accord qui sera conclu à la fin de cette guerre. À l'heure actuelle, cela permet de faire également pression sur le Hamas, sur la communauté internationale. Tout ce qui doit rentrer du sud vers le nord de Gaza, par exemple un million de réfugiés retrouvés, ce qui reste de leurs immeubles dans le nord de Gaza, tout cela aujourd'hui fait partie du contrôle que les Israéliens voudraient exercer, bien entendu, tout en filtrant et en contrôlant tous les Palestiniens qui reviendraient dans le secteur qu'ils habitaient avant cette guerre. Donc il s'agit d'une pression, cela fait partie des éléments qui seront négociés.
Est-ce qu'on parvient aujourd'hui à mesurer ce que la prise de contrôle du point de passage de Rafah par l'armée israélienne va changer, et notamment pour l'apport de l'aide humanitaire ?
Les Américains, la communauté israélienne exige, la communauté internationale, pardon, exige la réouverture immédiate, en tout cas le plus rapidement possible, de ce point de passage. Mais pas seulement, l'autre point de passage côté israélien, Kerem Shalom, est également fermé. Il a été bombardé il y a 3 jours par le Hamas, faisant 4 morts et une dizaine de blessés parmi les militaires israéliens. Donc effectivement, l'aide humanitaire aujourd'hui est bloquée et la pression américaine est de plus en plus intense sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement.
Quelle est la position, Charles Anderlin, la position de l'Égypte depuis le début de cette opération et comment la comprendre ?
A priori, l'Égypte a accepté la prise de contrôle de la position palestinienne du côté du poste frontière. Les choses sont assez discrètes. Tout se passe visiblement avec le feu vert égyptien. Les Égyptiens ne veulent absolument pas que des milliers de réfugiés palestiniens franchissent la barrière, franchissent la frontière et se dirigent sur leur territoire. C'est cela qui est fondamental. D'ailleurs, il y a un renforcement de l'armée égyptienne de ce côté-ci de la frontière.
Justement, est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochains jours, les États-Unis continueront d'accroître la pression ? Comment devrait se tisser cette relation dans les prochains jours entre les États-Unis et Israël ?
La pression est intense. Je vous l'ai dit d'abord, suspension de livraison de munitions, ça c'est fondamental. Et puis surtout, sous la pression américaine, Netanyahou a été obligé d'envoyer sa délégation au Caire pour poursuivre les négociations en vue de parvenir à une trêve et un échange d'otages. Cela au même moment où en Israël, vous l'avez dit, les manifestations sont de plus en plus importantes. Donc on devrait arriver à un accord s'il n'y a pas de nouvelles catastrophes et de nouvelles initiatives de Benjamin Netanyahou au cours, sinon des jours, peut-être des semaines à venir.
Merci beaucoup Charles Anderlin, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes également journaliste, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui a paru en septembre 2023 aux éditions du Seuil, un ouvrage intitulé « Israël, l'agonie d'une démocratie ». France Culture, il est 6h52.